des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
Y'a sa barbe qui pique un peu, y'a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien a de l'or dans les mains.
Mais tonton l'air de rien a de l'or dans les mains.
Bonjour Thomas Mulcair.
Hey, salut l'autre barbu.
Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute et chroniqueur au journal, et dans son studio Suzuki, il roule aujourd'hui.
Ben oui, ne vous inquiétez pas, comme dirait Charest, j'ai les deux mains sur le volant.
J'aime ça quand tu cites Jean Charest, Thomas Mulcair.
Je ne suis pas sûr que lui, il aime ça, par exemple.
OK. Ta chronique ce matin s'intitule « Avec une crise, l'important, c'est d'apprendre ». Puis tu contrastes vraiment la position du Québec actuellement et la position des provinces où il y a eu des négationnistes de la COVID.
Oui, parce que ici, évidemment, le week-end dernier, on a eu droit à nos négationnistes, mais c'était quand même circonscrit et c'était, bon, des flyers qui avaient loué des autobus pour venir exprimer que tout ça, c'était un complot du gouvernement pour nous contrôler. Mais dans une place comme Alberta, Jason Kenney est aux prises avec une fronde de la part de ses propres députés. Rappelons qu'un de ses faits d'armes politiques, et c'était toute une prouesse, les conservateurs n'étaient pas assez conservateurs en Alberta, au goût des gens vraiment de droite. Donc, ils ont fondé une parti qu'ils appelaient Wild Rose.
Ben oui.
Sauvage, on pourrait traduire. Donc, eux, ils sont pas assez proches de former un gouvernement à un moment donné. Donc, Kenney a dit, moi, je vais unite the right. Je vais unifier la droite sous un parapluie qui va être ce parti conservateur unifié. Très bien. Il réussit son coup, Antoine. Quand même, en termes politiques, c'était un coup de maître ce qu'il a réussi.
Ben oui.
Mais voilà,
il a réussi à déloger le NPD du pouvoir.
Ben oui. Mais en ce moment, ces statistiques dans les sondages, ces chiffres sont en chute libre.
Ben oui.
Parce qu'il est contesté de l'intérieur par cette même frange. Qui dit ça n'a pas de bon sens, il enlève nos libertés. Donc, c'est comme s'il avait une frange qui suivait les prêches de Maxime Bernier.
C'est
donc,
ça.
Il est aux prises avec ça. Et quand il annonce, donc, il a fait une conférence de presse sans fin avant-hier. Donc, c'est la plus longue conférence de presse que j'ai vue dans quelques juridictions, que ce soit depuis le début de la pandémie.
C'est vrai? Combien de temps ça a duré?
Moi, je dirais au moins une heure.
OK.
Et en passant le puck de l'un à l'autre, son ministre de la Justice vient expliquer telle affaire, puis son ministre de la Santé, puis sa personne responsable de la Santé. Ça finissait pas. Donc ça, en soi, en termes de communication politique, ça veut dire que t'as pas travaillé tes lignes d'avance. Mais il essaie de convaincre les gens, comme il pouvait. Il a dit qu'il va y avoir des restrictions. Mais j'écoutais les restrictions. Les gens sont encore au restaurant. Les gens peuvent encore prendre un verre en ce moment, et ils gardent tout ouvert pendant la fin de semaine de la fête des mères. Puis la semaine prochaine, il va commencer à restreindre un peu, par exemple, pour les coiffeurs ou peu importe. Donc, vraiment pas des restrictions adéquates. Et c'est la province, c'est plus de 4 millions de personnes quand même à Alberta, c'est pas petit. Mais c'est la province de loin avec le pire bilan en ce moment. Et alors, il suppliait les gens, il disait qu'il n'y aura plus de place bientôt dans les urgences et dans les soins intensifs. Il faut arrêter de déconner. Mais lui-même, il refuse de prendre des actions qui s'imposent.
C'est ça
mon point quand je dis il faut apprendre. Ben oui, au pire de la deuxième vague, ce pauvre Jason Kenney, il va devant la caméra, il dit, ah là, il va falloir vraiment être strict. Hein? Alors, il a dit, dorénavant, last call dans les bars, 10 heures le soir, pour devoir partir à 11 heures. Mais c'est littéralement le cas.
Ah, alors, c'est drôle parce que j'avais beaucoup aimé sa phrase récemment. Il avait dit, là c'est ma traduction, « Aucune notion politique abstraite n'empêche les gens de venir engorger les unités de soins intensifs. » Je trouvais ça brillant. C'est vrai que tu sais...
C'est une phrase brillante qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire arrêter de nous fatiguer avec vos théories de complot et dire que ça enfreint vos libertés.
Et la liberté, l'instrumentalisation d'une notion de liberté qui serait sans limite, alors qu'on vit en société, on est des êtres sociaux. Quand il y a une pandémie, faut vraiment faire des gestes concrets pour faire des barrières.
Ben, tout à fait. Et d'ailleurs, donc, si on regarde la carte du Canada en ce moment, on dirait que c'est alterné interne. Colombie-Britannique se débrouille assez bien. Ils ont des gens solides. Et la politique a laissé place à la santé publique. Alberta, catastrophe totale. Saskatchewan, ça va tellement bien. Scott Moe, un gars responsable, expérimenté, suivi par sa population. Il vient d'être élu avec une majorité mirabolante. Et à tel point que François Legault dit, ben, j'aime bien le modèle parce qu'il y a des mesures.
Ben oui.
On va dire, du moment qu'on atteint telle cible, on peut ouvrir tant. Il dit, j'aime bien cette approche-là. Puis le public ne demandait pas mieux. Manitoba, catastrophe totale. Ontario, ils viennent d'appeler l'armée. Quand je dis qu'il faut apprendre en pandémie de la gestion, le Québec a appris.
Mais oui.
On a quelque chose dans notre caractère. Quand c'était des, et là je fais des guillemets en l'air, quand c'était des directives, le public disait, garde, ça c'est ton opinion, la mienne vaut autant, je suis pas. Mais du moment qu'on avait quelque chose de clair, de mesurable, de facilement applicable, c'est-à-dire un couvre-feu, bang, tout d'un coup, on a cassé le dos
oui.
de la deuxième vague qui s'en allait très mal. Et à travers le Canada, parmi les grandes provinces, les quatre grandes provinces, Ontario, Québec, Colombie-Britannique et Alberta en termes de population, ben, à travers le Canada, le Québec va super bien comparativement pendant la troisième
vague.
Montréal, le Grand Montréal, 4 millions de personnes.
C'est le meilleur scénario pour François Legault. Tu sais, commencer comme un cancre, puis finir comme le meilleur, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis déjà, qui est fort dans les sondages, on le voit ce matin.
Ben oui, mais...
Puis il réussit sa campagne de vaccination, en plus.
Alors, en plus et en plus. Parce que la campagne de vaccination au Québec, les chiffres, voilà, avec les doses qui s'en viennent, on va être capable de frapper une cadence de 100 000 par jour, puis une généralisée pour les plus âgés, puis les mêmes groupes d'âge vont commencer pour la deuxième dose prochainement.
Ben oui.
Alors, et la mairesse Plante que de dire qu'elle veut ouvrir les terrasses à Montréal pour le 1er juin, et je pense pas que c'est irréaliste.
Mm-hmm.
Donc, le public commence à sentir que cette fameuse lumière au bout du tunnel, ben, c'est bien. C'est là, on peut y arriver. Et ça, c'est un énorme soulagement.
Okay.
Mais le Québec a appris à appliquer des
choses. C'est ça. Puis le Québec croit à la vaccination, qu'on le voit ce matin dans le sondage, 82%.
85%.
Alors qu'en France, c'est beaucoup plus bas, hein? Toi qui connais bien la France, qui a un pied en France aussi.
Je connais bien les Français sont très sceptiques à l'égard de leur gouvernement d'une manière générale.
Ouais.
Et ils ont tellement foiré tout en France depuis le début de la pandémie. Nous, on peut bien se lamenter. La première vague, c'était une catastrophe. Mais... La France, c'est catastrophe par-dessus catastrophe par-dessus catastrophe.
C'est ça.
Incompétence totale. L'École nationale d'administration, mettez la clé dans la porte, puis s'il n'y avait pas des narcs en train de gérer le gouvernement français, juste des gens avec de l'expérience et du gros bon sens, il aurait des chances.
Parlons de la langue française maintenant. Le gouvernement Legault qui pourrait retirer, ou il songe à retirer le statut de ville bilingue aux municipalités qui n'ont plus le nombre suffisant de citoyens non francophones. Est-ce que c'est pas une bonne idée? C'est une bonne idée, ça? Pour promouvoir le français?
Qu'est-ce que ça empêche, la promotion du français, qu'une personne qui habite dans une ville qui jadis avait 56% d'anglophones, qui est rendue à 48%, que cette personne-là reçoit son compte de taxes?
Non, à Turnburn Park, c'est 6,8% actuellement.
Oui, mais on peut parler de l'historique de ces trucs-là. Mais ça date du mois d'août, 26 août 1977. C'était l'article 113F de la version originale de la loi 101 qui disait que dans les municipalités qui étaient en majorité d'une langue autre que le français, on pouvait faire des choses bilingues. Il y avait eu des bras de fer. Ah ben, est-ce que c'est une langue ou du moment que c'est moins que 50% de francophones? Non, c'était la version plus restrictive. Et cette reconnaissance a été donnée. Et que ce soit Gérald Godin ou un autre qui était responsable de la Charte de la langue française, parce que Mais c'est pas d'hier que ces municipalités-là ne sont plus à 50% d'anglophones, on se le dit. Mais c'est un droit acquis qui a été respecté par tous les gouvernements.
Est-ce que c'est un droit acquis? Parce que le gouvernement Marois, avec le projet de loi 14, voulait remettre ça en question, dire que ça devrait être revu tous les 10 ans, selon le recensement de la population. Est-ce que c'était pas une bonne solution, ça?
Ben, regarde, si tu es capable de me dire, tu me regardes dans les yeux, de me dire comment le fait français au Québec est menacé parce que à Beaconsfield, les gens reçoivent leur compte de taxes bilingue, je vais te suivre parce que je te crois.
S'il y a des nouveaux arrivants, c'est toujours la difficulté de promouvoir le français langue commune, Tom. Mais tu sais, tu le dis, tu le soulignes souvent qu'au fédéral, Mélanie Joly, Trudeau, ils ont changé leur discours maintenant. On sait bien que c'est le français et non l'anglais qui a besoin de protection sur le territoire du Québec.
Ça, c'est évident. Mais pour cette communauté que M. Legault et Simon Jolin Barrette et Christopher Skeet, un peu moins connu, mais qui est le bras droit député de Laval et membre d'une minorité visible, qui porte parole pour le gouvernement dans ces dossiers-là, ils ne cessent de nous rabâcher les oreilles avec la communauté anglophone historique. Et justement, c'est historique. Puis tu viens de donner un chiffre qui le prouve. Mais ça enlève quoi? Objectivement, si tu as déjà mis des pieds à Otto Burn Park, qui est mon cas, ou à Greenfield Park, ça enlève quoi? Le couple qui reçoit le patent à gauche.
Mais peut-être que des immigrants qui viendront s'installer vont mieux comprendre que la langue commune, c'est le français. Ça envoie un signal. Puis l'anglais, de toute façon, avec le web, le numérique maintenant, Netflix et compagnie, nous sommes dans une classe d'immersion, donc l'anglais n'est pas en danger.
Bonne question. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire que l'anglais était en danger? Mais que le dépliant d'une municipalité qui est envoyée depuis 1977, qui est envoyée bilingue, continue d'être bilingue, parce que le plus récent, son coût de recensement a déterminé que, si tu es capable de me regarder droit dans les yeux et me dire, pour moi, le fait français,
c'est comme les factures bilingues d'Hydro-Québec. On envoie toujours le signal que le français est la langue commune. Si on envoie une facture en français, à moins d'en faire la demande express, là, tu sais, c'est comme ce que Simon-Jeanlin Barrette a annoncé hier, là, le décret qui impose la langue française vraiment dans l'administration publique québécoise.
Oui. Ben, écoutez, moi, ce que je vais faire, par contre, c'est qu'avant de commencer à m'énerver avec ce qu'ils sont en train de faire, je vais attendre de voir ce qu'ils proposent. C'est radical comme idée de lire la proposition avant de réagir.
Okay.
Parce qu'il peut avoir, comme tu viens de l'indiquer, il y a peut-être moyen de ménager une chèvre et le chou, genre demande express, qui enlève rien à personne, puis c'est pas généralisé que tout est bilingue. Ça, c'est peut-être un moyen de moyenner. Mais en dehors de ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir le sentiment que Simon-Jeanlin Barrette, c'est pas un bout de feu, c'est un apprenti sorcier. Il suit des géants, comme Claude Ryan, comme évidemment le docteur Camille Lorrain.
Oui, mais on n'est plus en 1977. L'anglais a une prégnance encore plus forte qu'à l'époque. C'est pas la madame de chez Eaton, là. c'est Netflix.
La grosse maudite anglaise.
Oui, c'est ça.
Pierre McDonald.
Oui, c'est ça. C'est, on n'est plus à cette époque-là. On est à l'époque de Netflix et des géants du web et tu sais, des TikTok puis des Instagram qui nous anglicisent, il faut le dire.
Écoute, ça, c'est vrai que le jeune francophone qui est en train d'étudier au séminaire de Québec, il y a 45 ans, c'est sûr qu'elle n'avait pas besoin d'avoir une connaissance suffisamment approfondie de l'anglais pour écrire constamment. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses dans le domaine des communications sociales qui exigent cette connaissance écrite de l'anglais que la donne a effectivement changé. Et je suis très sensible à ton argument clé, qu'il faut continuer d'envoyer le signal que le français, c'est la lingua franca au Québec. j'accepte ça volontiers et je travaille pour ça. Mais je terminerai peut-être là-dessus.
Ouais.
C'est-à-dire que les anglophones que moi je côtoie, puis je suis plus jeune aujourd'hui, j'ai 66 ans, mais je suis impliqué dans ces questions-là depuis que je suis dans la jeune vingtaine. Je connais la communauté. J'ai supplié, j'ai appelé les gens de comprendre, d'accepter que le français, c'était la langue commune au Québec.
Oui.
Les gens ont fait beaucoup d'efforts. Leurs enfants sont pas juste allés à l'école immersion. Leurs enfants, ils les ont envoyés à l'école française. Et ils ont non seulement accepté cette évidence, cette réalité, ils embarquent, ils sont joyeux, ils sont heureux d'en faire partie. Puis à chaque fois qu'un Simon-Jeanlin Barrette décide d'en faire un outil politique, pour essayer de picasser un petit peu. Puis je vois, à ma plus grande déception, en fait, Pascal Bérubé sauter dans la mêlée.
Ouais.
Ça, c'est des vieux réflexes qui n'apportent rien de positif.
Eh bien, merci beaucoup, Thomas, pour ce dialogue des barbus du vendredi. Puis bonne chance pour la suite.
Merci. Je suis très content de continuer cette discussion avec toi. Et je soupçonne qu'on est plus d'accord que les gens peuvent penser en nous entendant en parler.
OK, c'est bon. Salut, Tom.
À très bientôt.
Au revoir. À la semaine prochaine. We'll be right back.